c'est vrai ou c'est pas vrai les mages? J'aurais pu poser la question à Noël à propos des anges. C'est vrai ou c'est pas vrai les anges? Ça existe ou ça n'existe pas? Sauf que ceux qui ne croient pas aux anges ne croient pas non plus au diable, qui au départ était un ange. Le diable au départ était un ange. Merveilleux, un être merveilleux au départ. Comme tous les bébés du monde, comme nous l'avons tous été tout petits, merveilleux. Comme toutes les créatures de Dieu. J'ai rencontré des fiancés qui vont se marier, au moins civilement, mais qui se demandent s'ils vont se marier à l'église. On a eu un long, un bel échange. Et puis juste tout à la fin, le fiancé me dit que pour lui, Dieu est une création de l'homme. Oh, j'aurais préféré qu'il commence par là. Qu'est-ce que vous voulez répondre? C'est une formule épatante. Ça peut servir dans bien des cas. Les mages, c'est une création de l'homme. Les anges, c'est une création de l'homme. Le diable, c'est une création de l'homme. On peut changer simplement le sujet, ça marche très bien. Oh, j'ai juste répondu, vous allez être surpris. Il y a deux arguments qui peuvent effectivement faire douter de l'existence des mages. D'abord le fait que saint Matthieu est le seul évangéliste à en parler. Et l'autre fait que, sinon le récit, du moins la tradition, a teinté ce récit de beaucoup de merveilleux. C'est assez merveilleux, ce que l'évangile n'est assurément pas. L'évangile et notre foi, c'est sûrement pas de l'ordre du merveilleux. Et c'est d'ailleurs le principal motif de désaffection de nos églises, de l'église catholique, le principal motif de chute du baisse du nombre de catholiques pratiquants, c'est-à-dire que dans un monde d'illusions, de façon croissante, dans un monde composé de plus en plus d'illusions, nous refusons de vendre du rêve. Vous proposez le paradis. Sauf qu'il n'est accessible qu'à ceux qui ne mentent pas. Parce que le récit des mages, c'est d'abord une très belle page sur le refus du mensonge. Mensonge du roi Hérode, qui prétend qu'il ira se prosterner devant l'enfant. À l'inverse, les mages, eux, ne manquent pas à leurs paroles quand ils ne retournent pas chez Hérode. Souvent, on me pose la question de savoir quelle est la validité d'un engagement qu'on prend avec quelqu'un de malhonnête. La réponse est très simple. Quand une personne vous ment, coupez court. La première fonction des mages, c'est de rappeler que dans un monde corrompu, celui du temps de Jésus comme celui d'aujourd'hui, dans un monde corrompu et quel que soit le degré de corruption, il existe des personnes honnêtes. Et c'est la première qualité des mages. Ils sont foncièrement honnêtes. Ils arrivent à Jérusalem et ils disent le but de leur voyage. Ils ne racontent pas d'histoire. Ils sont riches. Ils sont riches vu la façon dont ils sont accueillis, vu les présents qu'ils déposent devant le roi des rois. Ils sont riches surtout de leur savoir, de toutes les connaissances qu'ils ont accumulées à force d'études. Ils sont riches et honnêtes. Oui, c'est possible. C'est une question de travail et de courage. Ils sont d'abord honnêtes avec eux-mêmes. Comme les bergers qui étaient allés voir ce que les anges leur avaient annoncé, les mages sont allés vérifier, sont allés voir sur place ce que leurs recherches, leurs études leur avaient montré. C'est souvent le seul reproche que je fais aux incroyants, aux personnes qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Je dis, mais est-ce que vous êtes vraiment honnête avec vous-même? Les mages sont honnêtes et ils brillent comme des astres dans la nuit qui s'était abattue sur Jérusalem, sur la ville sainte, puisque l'évangile dit qu'en apprenant la naissance du Messie, Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. qu'Hérode soit bouleversé. Pas encore. Mais tout Jérusalem avec Hérode. La ville sainte qui vibre au diapason du tyran. Comment est-ce que Jérusalem, la ville sainte, peut être avec lui? Celui-là même qui convoque les grands prêtres pour aller ensuite traiter avec les mages en secret. Alors on va dire, c'est le propre de la diplomatie d'œuvrer dans la discrétion. C'est surtout la perte de la politique que les tractations secrètes qui se font toujours à la fin au détriment du peuple et de l'intérêt commun. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Souvenez-vous, dimanche dernier, dans l'Évangile, c'était dimanche de la Sainte Famille, il y avait la prophétie du vieillard Siméon. Il disait à Marie, en parlant de Jésus, cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, il sera un signe de contradiction, toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée, ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. On sait très bien les pensées qui sont venues au cœur du roi Hérode, après que les mages sont repartis. Il est devenu fou, fou de rage et de fureur. Il a fait assassiner tous les enfants de moins de 2 ans. L'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu sont parfaitement cohérents. Et ils sont surtout très loin du merveilleux dont on voudrait affubler cette histoire. Il y a quelque chose d'assez comparable entre l'histoire des mages et l'histoire de Saint-Nicolas, que suivant les endroits, on peut dire aussi du Père Noël, peu importe. Ce sont en tout cas des fêtes très populaires qui sont méprisées par les élites. « Ah, c'est commercial !» Mais ce sont fondamentalement des fêtes populaires. Il faut les recevoir comme telles. 6 décembre, Saint-Nicolas. 6 janvier, normalement c'est le 6 janvier, l'Épiphanie. Dans le premier cas, il y a un crime qui est commis contre des enfants avant. C'est avant Noël et surtout avant que Saint-Nicolas vienne ressusciter les enfants. Et pour l'Épiphanie, le crime a lieu après. Après Noël et après le départ des mages. Et d'une certaine façon, le roi Hérode, il tient le rôle de l'ogre. Mais dans les deux cas, la lumière vient du Christ. C'est en lui que tous les enfants assassinés, tous les innocents reprendront vie. La visite des mages et le massacre des saints innocents sont un enseignement profond sur la foi et sur l'espérance. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons affirmer avec certitude que les mages ont existé, indépendamment de toutes les questions astrologiques, de toutes les informations sur les phénomènes astrologiques qui ont eu lieu à ce moment-là, et d'ailleurs qui sont plutôt satisfaisantes? La réponse, elle tient en 2 mots. L'adoration véritable. L'adoration véritable. Vous vous souvenez de cette phrase de saint Paul dans l'hymne à l'amour? L'amour ne cherche pas son intérêt. Les mages ne demandent rien à Jésus. Ils sont très capables de le demander. Le récit montre à quel point ils demandent leur chemin. Ils sont capables de le demander. Ils ne demandent rien à Jésus. Ils se prosternent devant lui. Ils déposent leurs offrandes. Et ils repartent par un autre chemin. Si les mages avaient été une invention humaine, ils auraient demandé quelque chose pour eux ou pour leurs proches. Ils auraient été comme tant de nos contemporains, comme tant de baptisés qui ne le sont plus, tant de chrétiens qui ne le sont plus. Ils le disent eux-mêmes, parce que ça ne leur apporte rien. Et quel est le cadeau alors qu'il leur est fait? L'amitié. L'amitié véritable, l'amitié avec Jésus et l'amitié entre eux. Ces mages ne se connaissaient pas. Ils avaient marché chacun plusieurs milliers de kilomètres. L'un probablement depuis le Soudan, les sources du Nil. L'autre depuis l'Inde lointaine. Le troisième des chaînes mongoliques. Ils se sont retrouvés à l'entrée de la Terre Sainte, au bord de la mer Morte. Et ils sont repartis ensemble. Ils sont devenus amis. Ils sont devenus amis parce que pour être amis, il ne suffit pas d'une sympathie, il ne suffit pas d'une affinité, il ne suffit pas d'une histoire commune. Il faut plus grand, il faut un horizon plus grand, il faut un avenir, un projet, une espérance. Voilà le deuxième vœu que je forme pour vous cette année. Le premier vœu, c'est l'honnêteté. L'honnêteté sur le modèle des mages. Mais le deuxième vœu, je vous souhaite, en particulier à l'Église, mais là où vous vivez, de vous faire des amis véritables. Comme les mages le sont devenus grâce à Jésus. Grâce à l'adoration. Et le troisième vœu, il est de faire comme les mages qui ont regagné leur pays, dit le texte, au singulier. Pas leur pays au pluriel. Parce que désormais, ils vivent dans le même pays. Celui que nous appelons le royaume de Dieu. Notre pays à nous, chrétiens. Le pays où Dieu se fait petit enfant. Et où l'amour est roi. Voilà trois bons vœux pour cette année. L'honnêteté, l'amitié et l'unité dans la foi.